Bonsoir à tous. Ce soir, j'ai une question qui m'est venue, hier. Pourquoi la souffrance? C'est une question très vaste. D'ailleurs, c'est pas ce soir qu'on pourra détailler tous les aspects qui sont liés à ce thème et à travers ce que nous allons voir ce soir, ça restera quand même bien superficiel par rapport à ce qu'est cette question. Et ce soir, je vais m'arrêter sur un aspect particulier qui peut expliquer certaines souffrances. Donc vous voyez bien que le thème de la souffrance, c'est un thème qui est très très vaste. Et c'est certainement pas cette prédication de 35 minutes, 40 minutes, qui va vous dire, qui va vous donner une réponse absolument sur pourquoi on peut souffrir, parce que forcément, je ne pourrais pas tout aborder. J'aimerais qu'on puisse lire, pour commencer, ce premier texte dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 13, au chapitre 7 et au verset 14. C'est très bien de se poser la question, de se dire, tiens, pourquoi la souffrance? C'est tellement bien parce que Dieu lui-même désire que nous nous posions cette question. C'est ce que dit, entre autres, ce texte que nous allons lire. Au jour du bonheur, jouis du bonheur. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un exactement comme l'autre, de telle sorte que l'homme ne découvre rien de son avenir. Au jour du malheur, réfléchis. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand je traverse un moment de souffrance, eh bien, il y a des raisons que je peux découvrir. Et Dieu m'appelle à réfléchir pour essayer d'obtenir justement la réponse à cette question. Pourquoi la souffrance? Vous savez, c'est toujours plus facile de souffrir quand on sait pourquoi. C'est toujours plus facile de souffrir quand on sait où on va. Prenez quelqu'un qui s'entraîne dur, il sait qu'il va souffrir, mais il l'accepte parce qu'il sait ce qu'il y a au bout. Et le Seigneur, s'il nous appelle justement à réfléchir quand nous souffrons, c'est pour une bonne raison. Prenons ce deuxième texte dans l'épître de Jacques, au chapitre 5. On reviendra sur ce texte un peu plus en détail tout à l'heure, mais j'aimerais lire le verset qui l'introduit. Jacques, chapitre 5, et on va lire le verset 13. Jacques 5, 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie pour être guéri? Non, personne ne me reprend. C'est écrit qu'il prie. Un point, c'est tout. Donc il n'y a pas la notion de guérison derrière. C'est pas écrit qu'il prie pour être guéri. C'est écrit qu'il prie. Au jour du malheur, réfléchis. Si tu traverses la souffrance, prie. C'est quoi la prière? On va juste expliquer quand même. La prière, c'est quoi? C'est quand on parle avec Dieu. La prière, c'est quand je m'adresse à Dieu, c'est quand je me confie en lui, certes, mais c'est aussi quand je reçois ce qu'il me dit. Donc quand ici Jacques m'appelle à prier quand je souffre, est-ce que vous croyez pas qu'entre autres, c'est pour savoir pourquoi il y a la souffrance? Moi, je crois que oui. Moi, je crois que si Jacques nous appelle à prier quand on souffre, notre prière ne doit pas être orientée forcément vers la guérison. La prière que Dieu recevra. Bien sûr, on peut dire à Dieu qu'on a mal, on peut dire à Dieu que c'est dur, etc. Ça, c'est se confier en Dieu. Il n'y a aucun souci, on peut dire les choses. Dieu, il est prêt à tout entendre, il n'y a pas de souci. Mais la prière vraiment qui nous est invitée ici à faire, c'est une prière qui demande à Dieu, dans cette relation père-fils, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que derrière la réponse qu'il va nous donner, va se cacher, dans certains cas, un remède. Alors pourquoi on souffre ? Je ne vais pas explorer tous les domaines, mais je vais juste quand même ceux que j'ai vus, présenter les domaines que j'ai vus. Et il y a un premier domaine où on peut voir une personne qui va souffrir parce que tout simplement, elle ne connaît pas Dieu et sa délivrance, sa guérison servira à révéler la gloire de Dieu. On en a des tas d'exemples dans la parole, notamment un en particulier dans l'évangile de Jean, c'est un aveugle de naissance et Jésus dit que lui, il n'a pas péché. Mais que sa guérison servirait à la gloire de Dieu. Et c'est une des raisons pour laquelle Dieu peut permettre les souffrances de quelqu'un. Une deuxième raison, c'est que Dieu veut nous perfectionner. En tant que chrétien, on est amené à être perfectionné. Et la souffrance fait partie des méthodes que Dieu peut utiliser pour nous perfectionner. À titre d'exemple, je dirais Job. Job, c'est quelqu'un qui était déjà intègre. C'est quelqu'un qui était agréable à Dieu. Et on le s'en rend très bien compte parce que c'est Dieu lui-même qui dit « Tu as vu mon serviteur, Job ?» Il le dit au diable lui-même. Il est intègre dans toutes ses voies. C'était quelqu'un déjà très bien. C'était quelqu'un de très bien. Et vous savez, un métal qui est impur, les grosses impuretés, il n'y a pas forcément besoin de chauffer. Un petit peu, mais les grosses, elles s'en vont vite. Mais il y en a des petites, les plus dures à enlever. Celles-ci vont demander une chauffe un peu plus forte. Mais quand on en arrive à enlever ces impuretés-là, c'est qu'on a déjà bien dégrossi. Job, il était dans une situation où il était déjà quand même pas mal. Et Dieu va le perfectionner. Et la souffrance du perfectionnement, en général, elle chauffe. C'est pas de celle-là que je parlais ce soir. Une autre souffrance qu'on peut vivre, celle-ci, elle est induite par nous-mêmes, par un mauvais choix, par une mauvaise décision. Par exemple, je pourrais citer David. David, qui à un moment de sa vie, il a fait un mauvais choix. Il aurait dû aller combattre, il est resté chez lui. Il est tombé dans le péché, et il est tombé bien bas dans le péché jusqu'à faire mourir son ami. Et il s'est repenti. Alors dans le ciel, il a été pardonné, sur la terre aussi. Mais le péché, son péché, a provoqué des conséquences, des souffrances induites par mon péché. Quand on prend un chemin, on prend la route pour aller quelque part, si à un moment donné on se trompe, on fait ce qu'on appelle un détour. On n'y peut rien, on s'est trompé. Et dans la vie, quand on se trompe, quand on manque le but, quand on pêche, eh bien, on fait un détour. Et ce détour-là, ça sera la souffrance qui sera induite par le péché. Ce qui veut dire que finalement, même malgré cela, par la grâce de Dieu, si je me repens, c'est là justement le bonheur qu'on peut avoir avec Dieu, c'est que quand on lui demande pardon, eh bien, on peut être pardonné. Même s'il y a des conséquences à subir sur la terre, eh bien, malgré tout, on est pardonné. Et le Seigneur approuvera nos voies. Et le Seigneur, dans notre détour, il nous accompagnera. Et ça, c'est le Seigneur lui-même qui s'engage. Quand David a décidé de demander pardon à Dieu pour son péché, certes, après, il a dû vivre des moments difficiles. Mais Dieu était avec lui, parce que Dieu avait pardonné. Donc même si à un moment donné, je vais souffrir à cause de moi-même, à cause de mon péché, mais que je demande pardon à Dieu, eh bien même dans ce détour-là, le Seigneur sera avec moi. Après, tout dépend de l'attitude de cœur. Il va y avoir des souffrances induites par mon péché, et même si je ne me repens pas, la souffrance sera là quand même. Mais le problème, c'est que je vais mal la vivre, parce que je ne pourrai pas compter sur la grâce de Dieu tant que je n'aurai pas demandé pardon. Le dernier aspect de la souffrance que je vois à mes yeux, hein, je ne suis peut-être pas exhaustif, la liste n'est peut-être pas complète, c'est qu'il s'agit ici plutôt d'un jugement de Dieu, un châtiment. Un châtiment, qu'est-ce que c'est que ce mot-là ? Avant, c'était quelque chose de simple, un châtiment. Un châtiment, c'est quand on châtie, c'est quand on corrige. Il n'est pas question de châtiment éternel dans le mot d'origine. Un châtiment, c'est quand on intervient pour corriger quelqu'un qui prend une mauvaise direction. Et ici, c'est un châtiment que Dieu peut permettre envers un fils, une fille, qu'il aime et qu'il veut corriger. C'est ce que Dieu permet pour attirer notre attention. C'est une souffrance qu'on peut vivre, qu'on peut traverser, que Dieu permet simplement pour qu'on ouvre les yeux sur ce qu'on est en train de faire, sur ce qu'on est en train de vivre. Autrement dit, à partir du moment où j'aurai compris ce que Dieu veut me dire, le remède est à la porte. C'est des souffrances qui peuvent partir très très vite. Ce sont des souffrances qui peuvent faire mal, mais c'est aussi des souffrances qui peuvent partir très vite. Je citerai Osée, chapitre 2, verset 14, où on voit justement Dieu qui dit « C'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Dieu parfois permet des souffrances et nous amène dans des déserts. Et dans un désert, on n'a pas à boire, on n'a pas à manger, il n'y a rien à faire, sinon que de se tourner vers celui qui veut nous parler. Au sujet du châtiment, si vous prenez des notes, vous pouvez le noter, mais j'aimerais que vous m'écoutiez plutôt que vous lisiez dans vos bibles, parce que je vais vous citer une version particulière, c'est la version Parole Vivante, mais je trouve qu'elle est très parlante, elle aide à comprendre. Écoutez, c'est Hébreux, chapitre 12, versets 3 à 13. Je vais vous lire la version Parole Vivante. « Pensez à la lutte opiniâtre qu'il a eu à soutenir, donc Jésus-Christ, contre des hommes pécheurs, à la manière dont il a supporté leur hostilité, et ne vous laissez pas abattre par le découragement. Après tout, vous n'avez pas encore dû verser votre sang pour avoir lutté contre le péché. » Le Seigneur, lui, c'est ce qu'il a vécu, pas nous. « Auriez-vous oublié cette parole d'encouragement qui s'adresse à vous en tant que fils de Dieu. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur prend sous sa discipline celui qu'il aime. » Je le relis ça. Le Seigneur prend sous sa discipline celui qu'il aime. Il corrige tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Les corrections que vous avez à endurer servent à votre éducation. Supportez-les donc. Elles prouvent que Dieu vous traite en fils. Je répète ça aussi. Elles prouvent que Dieu vous traite en fils. Quel est le fils que son père ne corrige pas ? Si vous étiez dispensé de la correction qui est le lot de tous les vrais fils, vous ne seriez pas des enfants légitimes, mais des bâtards. D'ailleurs, nos parents terrestres ne nous corrigent-ils pas ? Cela a contribué à notre bien, et nous les respections d'autant plus. Ne voulons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père céleste pour apprendre à vivre ? Nos parents nous corrigeaient comme bon leur semblait pour peu de temps. Dieu, au contraire, nous corrige toujours pour notre vrai bien, afin de nous faire participer à sa sainteté. Certes, sur le moment, une correction n'a rien de réjouissant. C'est plutôt une expérience pénible. Plus tard, cependant, elle produit chez ceux qui se sont ainsi laissés former un fruit précieux, une vie juste, conforme à la volonté de Dieu et vécue dans la paix. C'est pourquoi, relevez ces mains qui tombent et raffermissez ces genoux qui fléchissent. Dirigez vos pas vers les chemins droits afin que le pied qui boite ne se démette pas complètement mais qu'il guérisse plus tôt. Il y a derrière tout ce passage une explication qui tend à nous montrer que Dieu permet des souffrances justement parce qu'il nous aime. Comment ça se passe quand on reprend un enfant ? Quand on reprend un enfant, en général, on commence par une méthode douce. Il y a eu un problème de comportement. D'ailleurs, j'en profite pour dire que on ne dit jamais à un enfant qu'il est méchant. Le problème, ce n'est pas l'enfant lui-même, c'est ce qu'il a fait. Et donc, quand on reprend un enfant, on ne lui dit pas « t'es méchant ». On lui dit « ce que tu as fait n'est pas bien ». Parce que Dieu aime le pécheur. Et l'enfant, même s'il a mal fait, on l'aime quand même. Et un père, une mère, doit toujours faire sentir à son enfant qu'il l'aime, mais qu'il n'approuve pas forcément tout ce qu'il fait. C'est pas pareil. Ici, quand on reprend un enfant, on lui explique bien qu'il a mal fait. Alors il va faire un choix suite à cet enseignement. Soit il va écouter et il va faire attention, ou soit il va résister et il va recommencer. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Eh bien, on essaie d'expliquer d'une autre manière. D'une manière peut-être plus compréhensive. Pour certains, ça sera la fessée, j'en sais rien. Pour d'autres, ça sera une manière, peut-être une punition. Peu importe. Le tout, c'est qu'on est obligé de faire monter une souffrance. Une petite souffrance, qui est une simple explication, peut devenir une grande souffrance quand il y a de la résistance. C'est comme ça qu'on élève nos enfants. Mais c'est aussi comme ça que Dieu fait. Avec nous. C'est comme ça que Dieu fait avec nous. Peut-être que des fois, il nous arrive de prendre une mauvaise direction. Dieu essaye de nous le faire savoir. Il nous parle, mais si on n'écoute pas, il va devoir s'y prendre d'une autre manière. Et des souffrances peuvent être connues. C'est la souffrance que j'aimerais évoquer ce soir. Après cette longue introduction, c'est la manière dont Dieu s'y prend pour reprendre celui qu'il aime. Je ne dis pas que toute souffrance, toute maladie prouve qu'il y a un péché. Je l'ai justement présenté, il y a plusieurs types de raisons. Ce soir, je vais m'arrêter plus spécifiquement à la souffrance que Dieu permet parce que nous sommes dans une situation qu'il désapprouve. Alors, il essaye d'attirer notre attention par une souffrance. Et si la souffrance est là, ça veut dire que déjà, on n'a pas écouté. C'est important, ça. Parce qu'on pourrait s'éviter des souffrances si on écoutait tout de suite. Donc, quand la souffrance est là, c'est qu'on est déjà dans une situation de résistance. Et Dieu fait commencer à chauffer. On commence à passer un passage qui n'est pas facile, qui peut être pénible parce qu'il fait chaud, à cause de la souffrance. Ça peut arriver que Dieu s'y mette. On va lire juste quelques textes. C'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour qu'on comprenne. Deutéronome 28. Dans le Deutéronome, dans ce chapitre 28, il y a deux volets, un qui est plutôt court concernant les bénédictions et un autre un peu plus long concernant les malédictions. Mais si l'autre est plus long, c'est pas parce qu'il y a plus de malédictions. C'est pour montrer toute la patience de Dieu. Parce que tout est échelonné, tout est de plus en plus fort. Alors au début, ça va. Mais au fur et à mesure qu'on résiste, Dieu va être obligé d'employer les grands moyens. Alors tout est décrit. C'est pour ça que c'est plus long, parce que la patience de Dieu est grande. Chapitre 28, verset 21. C'est une malédiction dans le cas de quelqu'un qui s'obstine à ne pas écouter Dieu. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle t'extermine du pays dans lequel tu vas entrer pour prendre possession. La peste, c'est quoi ? Non, c'est pas un péché. La peste, c'est quoi ? C'est une maladie. C'est une maladie. Une vraie maladie, je veux dire. Une maladie physique. Qui prend sa source dans quelque chose de spirituel. Est-ce que vous comprenez ? Verset 22. L'Éternel te frappera de dépérissement, de fièvre, d'inflammation, de brûlure, de sécheresse, de rouille et de niel. Donc il y a la question de la pauvreté aussi. Qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Ça fait un peu peur ces textes, mais c'est bien de le lire un petit peu quand même. Verset 27. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte. Ulcère. Ulcère, cancer, c'est un peu tout. Bon. Il y a des fois des maladies qui ont pour origine un problème spirituel. Pas tous, hein. Je suis pas en train de dire que si vous avez un cancer, vous avez péché. Mais je suis juste en train de dire que Dieu peut permettre la maladie physique à cause de quelque chose que nous avons fait, que Dieu désapprouve, et que nous sommes dans une résistance. Alors Dieu emploie des moyens qu'il a à disposition pour attirer notre attention. Une maladie, même grave, Dieu peut l'utiliser pour qu'on puisse ouvrir les yeux. Les cancers, l'ulcère d'Égypte, hémorroïdes, la gale, les démangeaisons, dont tu ne pourras guérir. Là, il est question de maladies incurables, sinon par Dieu. Dans l'Ancien Testament, on a tout un traitement de faveur pour la lèpre, parce qu'elle est l'image du péché. Dans le Lévitique, il y a tout est décrit. C'est une maladie que, dans l'Ancien Testament, seul Dieu donne et seul Dieu enlève. Elle s'attrape par Dieu et elle se guérit par Dieu. Et elle est contagieuse. C'est une image du péché. C'est une image du péché. Alors, je ne veux pas rester sur quelque chose de négatif, mais on pourrait mal réagir quand même devant sa situation et se dire, ou ne pas se sentir concerné. Mais moi, j'aime Dieu, je me suis converti, j'ai pris mon baptême, j'ai même pris mon baptême à Sainte-Agne. Sainte-Agne, ça ne veut rien dire, hein. On peut ne pas comprendre. On peut se croire bien, alors qu'il y a quelque chose justement que Dieu essaye de nous faire comprendre, quelque chose qui ne va pas dans nos vies. Et quand on est dans la souffrance, il nous faut réfléchir avec un cœur droit et honnête, et pas à chercher à se justifier. Parce que si je commence à essayer de me justifier, je suis dans une certaine forme de résistance. Parce que j'essaie de justifier un mauvais comportement. Quelque chose que Dieu désapprouve. Et si je commence à essayer de me justifier, c'est pas comme ça que je vais pouvoir être guéri. Ce n'est pas en persistant. Et j'aimerais qu'on prenne un exemple. Deuxième livre des Chroniques. C'est un exemple dans l'Ancien, mais j'aurais pu en prendre un dans le Nouveau, hein. Deux Chroniques, Dieu ne change pas, il est le même. Et sa manière de faire, que ce soit dans l'Ancien que dans le Nouveau, ça ne change pas. Deux Chroniques, chapitre 16. Nous avons l'exemple d'un roi qui s'appelle Asa. Un roi qui a vécu des belles choses avec Dieu. Mais à un moment donné, il s'est trompé d'appui. Il s'est trompé d'appui, ça c'est la première erreur. Et la deuxième erreur, c'est que ce roi, il est susceptible. Et quand un messager venant de la part de Dieu va venir lui dire ce qui ne va pas, pour qu'il puisse sortir de cette souffrance, il va mal réagir. Et il va s'enfermer dans une prison liée à une souffrance qui ne terminera pas. Verset 7. Dans ce temps-là, le voyant, donc le prophète, Hanani, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Couchites, les Libyens, ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et des cavaliers très nombreux ?» Il fait référence à une autre guerre où il y avait une armée considérable. Et là, cette fois-ci, il avait fait le bon choix et s'était appuyé sur Dieu. Et il avait été vainqueur. Pourquoi n'a-t-il pas réitéré cette bonne manière de faire ? C'est la question que pose ce prophète. « Cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel parcourt du regard toute la terre pour que s'affermissent ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. La conséquence de mon péché. » Ça, même si je demande pardon, les conséquences, après, elles y sont. Il faut faire avec. Mais on continue, parce que là, on voit le problème de susceptibilité d'Asa. Asa fut irrité contre le voyant et le fit mettre en prison, parce qu'il était en colère contre lui à cause de cette affaire. En même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Les actes d'Asa, les premiers et les derniers, sont écrits dans le livre des rois de Juda et d'Israël, la 39e année de son règne. On ne connaît pas exactement le temps qui s'est passé entre les deux, mais on peut imaginer que Dieu n'a pas répondu tout de suite. Parce que Dieu, il est patient. Il est très patient. Mais à un moment donné, le couperet tombe. Alors, que s'est-il passé ? La 39e année de son règne, Asa eut les pieds atteints d'une très grave maladie. Toutefois, même pendant sa maladie, il ne rechercha pas l'Éternel, mais consulta les médecins. Asa se coucha avec ses pères, il mourut la 41e année de son règne. Alors Dieu est contre les médecins ? Qu'est-ce qui est reproché ici ? C'est pas d'aller voir les médecins. C'est qu'il persistait dans une attitude rebelle envers Dieu. Il était dans la résistance. Il ne voulait pas plier. Dieu a permis une souffrance pour attirer son attention. Et alors qu'il se retrouvait avec les deux pieds malades, il n'a pas réfléchi. C'est ça qui lui est reproché. Il n'a pas recherché Dieu. S'il l'avait fait, il aurait peut-être été guéri. Il n'a pas recherché Dieu, mais il s'est opposé. Il n'acceptait pas la souffrance que Dieu lui infligeait. S'il avait recherché Dieu, peut-être que Dieu lui aurait dit, « Va voir les médecins maintenant. » Pas de problème. Mais il n'a pas cherché Dieu. Il était dans une attitude rebelle, de résistance. Et quand on résiste à Dieu, Dieu il nous résiste. Ça, c'est sûr. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Celui que Dieu reprend et qui résiste, c'est de l'orgueil. Parce qu'il estime qu'il n'a pas à être repris. Ça veut dire que Dieu ne fait pas bien de le reprendre. Ça va loin cette affaire. Ça monte très haut. Parce qu'on commence à dire à Dieu, t'as pas à me faire subir ce que tu me fais subir. On sait mieux que Dieu. Et ça, c'est insupportable du point de vue de Dieu. C'est insupportable. Et Dieu nous résiste. Cet homme-là, on voit là, le temps, il a été malade 2 ans. Il a eu 2 ans. 2 ans pour chercher Dieu et il l'a pas fait. Et au bout des 2 ans, il est mort à cause de la maladie. Mais si seulement il avait appliqué son cœur à chercher Dieu. Une clé de ce type de souffrance, on l'a dans ce livre des Chroniques, au chapitre 7. On tourne quelques pages en avant. Deux Chroniques, chapitre 7, verset 14. Dieu nous amène une solution. Comment faire face à ces souffrances quand Dieu nous reprend? On peut le lire dès le verset 13, parce qu'on voit à quel point Dieu s'implique. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste contre mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Pour nous, individuellement, ça peut être des guérisons de notre corps. À un châtiment, même physique, qui a une origine spirituelle, la solution est spirituelle. C'est aussi simple que ça. Si c'est Dieu qui m'inflige une maladie pour une raison spirituelle, la sortie, elle est spirituelle. Ça veut dire que Dieu attend de moi quelque chose. Et il faut le régler. Voilà la restauration. Alors, il faut s'humilier. Il faut reconnaître s'être trompé devant Dieu. Seigneur, je me suis trompé. C'est ça la réflexion que Dieu veut nous amener à avoir dans ces situations. Seigneur, tu m'as amené dans telle et telle souffrance. Pourquoi ? Eh bien, je le redis, c'est pas tous les cas de figure, c'est un cas spécifique que je traite. Dans le cas du péché, il faut savoir reconnaître où est-ce qu'on s'est trompé, où est-ce qu'on a péché. S'humilier, c'est ça. Il faut prier le Seigneur pour lui demander pardon. Il faut décider de changer d'attitude, faire un demi-tour sur notre comportement. Et chercher le Seigneur. La guérison est au bout. Maintenant, on va reprendre Jacques. Jacques, au chapitre 5. Verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu'il prie. Donc pour savoir d'où ça vient. Donc ça c'est traité, on passe à la suite. Quelqu'un est-il dans la joie ? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'église et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Mais il ne faut pas oublier le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Avez-vous remarqué à quoi est reliée la guérison ? Verset 16, la confession. Alors, effectivement, il ne faut pas mal comprendre ça, on va y venir. La première chose que je vois ici, je souffre alors je prie. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, quand je prie, c'est pour savoir pourquoi je souffre. Pour ceux qui prennent des notes, il y a un exemple très intéressant dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, versets 7 à 10, où l'apôtre Paul, il exprime le fait qu'il avait une écharde. Il y avait quelque chose qui était là. Et il voulait que Dieu l'en délivre. Alors il a prié. Et Dieu lui a dit, mais non, c'est à cause de moi que tu l'as, cette écharde. Je l'ai permise, afin que tu ne t'enorgueillisses pas. Il a eu sa réponse. Est-ce qu'il a continué à prier pour être guéri ? Bien sûr que non, parce qu'il savait qu'il ne serait pas guéri. Voilà pourquoi il faut prier, pour savoir. On a besoin de savoir. Parce que quand on sait pourquoi on souffre, soit on va essayer de régler ce qu'il y a à régler, ou soit, ayant eu l'éclairage du Seigneur, on va supporter la souffrance. On va avoir un objectif, on va savoir où Dieu veut en venir, et on va pouvoir le supporter. Ensuite, il est question d'appeler les anciens. Alors, pourquoi faut-il les appeler ? Pour qu'ils fassent un acte magique en mettant un petit peu d'huile sur la tête et en priant, et ils seront exaucés ? Non. Moi, tel que je le comprends, ce texte, c'est que les anciens, ils vont commencer à poser des questions. Pourquoi ? Tu as prié ? Que t'a dit le Seigneur ? Pourquoi tu souffres ? C'est ça. Les anciens, ils peuvent avoir un discernement qu'on n'a pas quand on est jeune chrétien, quand on est jeune converti, d'accord. Et c'est à ça que les anciens peuvent servir, à apporter un éclairage. Par exemple, la personne, effectivement, elle a jamais lu Jacques 5, elle a pas lu « Si quelqu'un souffre, qu'il prie ». Bon, ben les anciens vont pouvoir lui dire. Ben voilà. Le point de départ, c'est ça. Mais ensuite, peut-être que la personne, elle va avoir besoin de régler des choses. Et c'est là que l'appel aux anciens peut aussi être intéressant. C'est que les anciens, ils ont ce devoir d'écoute, ce devoir de présence et de conseil. Parce que l'ancien dans l'Église, c'est celui qui veille sur l'Église. C'est celui qui ne veut pas voir la brebis qui est boiteuse au fond du troupeau, parce que si cette brebis elle quitte le troupeau, qu'est-ce qui va se passer ? Le loup va venir. Alors, l'intérêt de l'ancien, l'intérêt du berger, c'est que même cette brebis, elle réintègre le troupeau et elle soit guérie. Donc on fait venir les anciens et on peut évoquer le problème. Voilà, le Seigneur m'a montré que là, il y a ça qui ne va pas dans ma vie. Et je vous demande pardon. Peut-être que quelqu'un a mal parlé. Peut-être que quelqu'un a calomnié. Cette personne a peut-être calomnié quelqu'un et s'enfonce dans la calomnie. Arrête pas dans l'église de dire du mal des frères, des sœurs. À un moment donné, Dieu, il interpelle, mais s'il y a résistance, il va s'en mêler par autre chose. Et il peut y avoir des souffrances. Mais cette souffrance-là ne sera résolue que si la personne demande pardon. Et que si la personne va demander pardon aux personnes concernées qui ont été calomniées, c'est un exemple. Mais c'est pour dire qu'il y a des souffrances qui sont là, que Dieu permet, parce qu'il y a une attitude de cœur qui est mauvaise. Peut-être que moi, je suis jeune, et puis que je n'honore pas mes parents, je ne prends pas soin d'eux, alors que je me dis chrétien, converti, frère en Christ, et mes pauvres parents qui ont besoin de mon aide, eh bien, je ne m'en occupe même pas. Il y a peut y avoir des petites choses comme ça qui traînent. Et la souffrance peut être là pour nous amener à réfléchir sur nos voies, pour qu'on puisse réparer ce qu'il y a à réparer. Et Dieu, qu'est-ce qui va se passer ? La guérison va venir. La délivrance de cette souffrance-là va venir. Et ça viendra de Dieu. Parce que la personne se sera repentie de tout son cœur. Et les anciens, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont prier pour le malade. Moi, ça me fait penser à cette scène où Dieu demande à Job de prier pour ses amis. Quand est-ce que Job a été rétabli ? On peut le lire, je terminerai là-dessus. Job, chapitre 42, verset 10. C'est écrit, Dieu ne change pas de méthode. Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament est toujours valable. L'Éternel rétablit la situation de Job, bien que lui n'a pas souffert à cause de son péché d'ailleurs. Je le répète, lui, sa souffrance était pour une autre raison. Mais il s'est passé des choses pendant cette période-là, Et Job a été amené à exercer le pardon. L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. J'aimerais qu'on puisse comprendre ce soir qu'il y a des souffrances que Dieu permet, qui sont là pour notre bien, certes, mais la guérison, elle est à portée de main. J'aimerais partir, qu'on puisse se quitter sur cette idée-là quand même. C'est que, certes, Dieu permet la souffrance. Il peut permettre, d'accord. Mais celui qui est honnête sur lui-même, celui qui réfléchit sur ses voies, et qui se repent de son péché, comme on l'a lu, il sera guéri, parce que Dieu n'attend que ça. Dieu ne corrige pas par plaisir. On ne reprend jamais nos enfants par plaisir. En tant que père, les fois où j'ai été amené à reprendre mes enfants, c'est pas de gaieté de cœur que je le fais. Est-ce que le Seigneur, lui, le ferait de gaieté de cœur? C'est pas possible. Dieu, il ne prend pas plaisir à nous reprendre. C'est pas possible. C'est pas la volonté de Dieu qu'on soit dans la souffrance. La guérison, elle est à portée de main. Et malheureusement, on se retrouve à vouloir, par notre orgueil personnel, rester dans notre prison, plutôt que de sortir, parce que ça sous-entend qu'il faut que je m'humilie devant Dieu, que je m'humilie devant les hommes, que j'aille demander pardon, que j'aille réparer, alors que je peux le faire. C'est ça qui est terrible. Je peux faire ces choses, c'est à ma portée. Et à la clé, il y a des guérisons. Est-ce que vous entendez, frères et sœurs? Il y a des guérisons à la clé. Moi, quand je pense à ça, je me dis, mais il faut que je réfléchisse quand même. Quand je suis malade, oui, les médecins, on peut aller voir les médecins. Mais d'un point de vue biblique, il y a quand même des maladies qui viennent de Dieu et qui peuvent être guéries par lui-même à partir du moment où je me repens pour mon péché.